Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pierrot et la Mégie.
Et voici les titres de votre journal, mesdames, messieurs. Processus électoral en RDC, tout en se disant disposé à revenir à la table des négociations en vue d'aboutir à la désignation des animateurs de la CENI. Monseigneur Marcel Outembi, président de la plateforme Confession religieuse, suggère la poursuite des opérations techniques par le State de la CENI en vue d'éviter les retards dans la préparation des élections de 2023. Ils sont environ 100 000 les personnes qui ont fui les récentes attaques des hommes armés à Komanda et sa périphérie dans les territoires d'Urumu. Selon Otia, qui publie ces chiffres, ces déplacés sont dans un état de vulnérabilité extrême, car plus de 70% de cette entité est pour le moment inaccessible à cause de l'insécurité. Notre invité, c'est le sénateur Hippolyte Mouton-Bomboué qui sera avec nous avant la fin de ce journal. Nous évoquons avec lui le projet de loi déposé à la Chambre haute du Parlement au mois de septembre dernier portant réglementation du transport par moto-taxi afin d'assurer une exploitation efficiente de ces moyens de transport. À 18h à Kinshasa, 19h à Kisangani, processus électoral en République démocratique du Congo. La CENCO s'est dit disposée à revenir à la table des négociations en vue d'aboutir à la désignation des animateurs de la CENI. Le processus étant actuellement en impasse, Monseigneur Marcel Outembi, vice-président de la plateforme Confession religieuse à ces négociations, suggère la poursuite des opérations techniques par les secrétariats de la CENI en vue d'éviter le retard dans la préparation des élections de 2023 au pays. C'est ce qu'il a déclaré hier à Kisangani au cours d'un point de presse. Reportage Jacques Mokonkole.
Les confessions religieuses, comme on le sait, ne sont pas arrivées à un consensus pour la désignation du président de la CENI. Pourquoi alors ne pas organiser le vote comme le prévoit leur charte? Selon le président de la CENCO, Monseigneur Marcel Outembi, le vote comme mode de désignation ne peut intervenir qu'en dernier ressort si toutes les conditions sont réunies. Il s'agit notamment de valeurs de vérité, d'honnêteté, de crédibilité et de justice. Or, celles-ci font défaut, déclare le prélat catholique.
Lorsqu'on s'aperçoit que en amont, il y a des personnes qui développent des manœuvres qui vont à la contre de la vérité, qui vont à la contre d'une valeur morale. On ne peut pas arriver à organiser quelque vote. Nous en sommes arrivés à ce niveau-là.
Quoi qu'il en soit, le président de la CENCO explique que selon la loi organique de la CENI, ne peuvent participer à ce processus que les membres de la société civile et des confessions religieuses ayant une expérience avérée en matière électorale. Ce qui n'est pas le cas pour les six autres confessions religieuses. Par ailleurs, l'homme des dieux exhorte la population à la vigilance pour, dit-il, qu'aucune personne ni institution ne puisse lui ravir sa souveraineté dans la gestion de la CENI. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Entérinement des membres de la CENI à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des candidats a remis hier mercredi son rapport à Christophe Mbosso. Cette commission a travaillé depuis deux mois pour analyser et approuver les procès-verbaux des différentes composantes ayant désigné leur candidat pour la prochaine CENI. À en croire le président de la dite commission, une plénière sera convoquée dans les jours qui suivent afin d'installer la prochaine CENI et aller aux élections dans les délais. En Ituri, environ 100 000 personnes ont fui les récentes attaques des hommes armés à Komanda et sa périphérie dans le territoire du Rumo. Ce chiffre a été publié ce jeudi par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en Ituri. Selon Otia, ces déplacés sont dans un état de vulnérabilité extrême, car plus de 70% de cette entité est pour le moment inaccessible à cause de l'insécurité. Isaac Remoyope.
Il s'agit des personnes qui ont fui les attaques à répétition des groupes armés le 23 et 24 septembre dernier, puis le 1er octobre à Komanda, Makayanga et aux alentours. Selon les bureaux de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en Ituri, Ocha, environ 95% de la population de Komanda est en déplacement. D'autres continuent à vider les milieux. Ces déplacés sont éparpillés sur trois axes, Irumu Centre, Marabo, Nyankunde et Bunya, certains sur les tronçons Komanda-Mambasa dans les localités de Mungamba, Lolwa et Biakato, et d'autres encore en chefferie de Walindo-Bindi dans des villages de Bukiringi et Aveba. Selon Ocha, ces personnes vivent dans des conditions difficiles, pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'eau ni d'abri. Dans certains centres de santé, notamment ceux de Marabo et Nyankunde, il y a rupture totale de médicaments. Plusieurs structures sanitaires dans les lieux de refuge de ces déplacés ne sont pas à mesure d'assurer des soins gratuits à ces personnes. À cela s'ajoute la difficulté d'accès dans 70% du territoire d'Irumu. Plusieurs ONG se sont retirées des commandes. Selon Ocha, le risque des maladies est très élevé dans cette région et nécessite une réponse humanitaire d'urgence. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Le vice-premier ministre à la fonction publique séjourne depuis hier mercredi à Bumba dans la Mongala. Jean-Pierre Liaou conduit une délégation du gouvernement central qui est allée exprimer sa compassion aux victimes du naufrage de la semaine dernière et leurs familles. Le drame a eu lieu à 24 km en amont de Bumba sur le fleuve Congo. Le dernier bilan en date fait état d'une soixantaine de corps repêchés et enterrés, ainsi que quelques rescapés et une centaine de disparus. Mais les familles éplorées sont encore loin de se remettre de leur peine. Elle compte sur l'assistance du gouvernement. Reportage Paul Richard Malengela.
La surcharge est la principale cause de notre accident, car le convoi était bondé de marchandises et de passagers, a dit Madame Yvette Mosekangolo, une commerçante rescapée jointe à Bumba. Cependant, elle a tout perdu et ne sait plus se prendre en charge. J'avais un capital de 500 000 francs, j'ai tout perdu, 19 valises de poissons et mes téléphones. Que le gouvernement nous assiste afin d'avoir des moyens de scolariser les enfants, comment vivre avec les enfants et payer le loyer. Quant à Clément Zimbi, un sans-emploi, il reste inconsolable. Il a perdu sa fille de 35 ans qui le prenait en charge. C'est pénible pour moi, je suis chômeur. C'est ma fille qui prenait soin de moi grâce à son commerce. Maintenant, elle m'a laissé ses quatre orphelins. Comment allons-nous vivre? Que les autorités les prennent en charge. C'est également le désespoir pour ce villageois venu de Bokata afin d'enterrer le corps de son fils. Il comptait sur la victime qui a trouvé la mort de retour des vacances. Mon fils devait avoir son diplôme cette année. Sa perte me chagrine. Que l'État organise de bonnes embarcations et interdise les surcharges. À cause de cela, j'ai perdu mon fils. J'ai de la peine. Au-delà du message de compassion lancé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, la plupart des victimes disent attendre une assistance matérielle et financière du gouvernement congolais, mais aussi l'amélioration des conditions de voyage par route et sur fleuve en vue d'éviter ces accidents meurtriers à répétition. Bandaka Paul Chamalingue, la radio Okapi.
On en sait un peu plus sur le drame survenu le week-end dernier sur la route Likasi à l'entrée de la ville de Lubumbashi. D'après l'autorité du secteur de Bukanda où a eu lieu l'accident, sur la cinquantaine des passagers, jusqu'à présent, 5 personnes mortes, quelques blessés et des rescapés ont été retrouvés. Le chef du secteur Bukanda renseigne que l'accident s'est produit dans la nuit du 9 au 10 octobre dernier. Un bus de transport en commun a connu une collision avec un camion citerne transportant de l'acide en provenance d'Likasi. Le bus a alors pris feu. Sur place, on a dénombré 3 morts, dont les chauffeurs. Des autres sont morts à l'hôpital. 8 passagers grièvement blessés sont admis dans un hôpital de la place. On compte aussi 12 rescapés, ce qui fait un total de 25 personnes. Jean-Marie Ngombe affirme qu'on ne sait toujours pas où s'est réparti les 25 autres personnes si elles ont fui ou plutôt péri dans le feu. En bref, au Nord-Kivu, un deuxième décès causé par la maladie à virus Ebola a été enregistré hier dans la zone de santé des Beni après la réapparition de la maladie le 8 octobre dernier selon le coordonnateur de la riposte contre Ebola. Il s'agit cette fois-ci d'une femme âgée de 42 ans ayant un lien épidémiologique et familial avec le premier cas de décès, un enfant de 2 ans enregistré le 6 octobre. Pendant ce temps, la campagne de vaccination contre Ebola a été lancée hier dans plusieurs quartiers de la ville de Beni, notamment Boutili, où un premier cas de maladie a été enregistré. Sont vaccinées en premier les personnes à risque parmi lesquelles les contacts du premier cas confirmé afin d'endiguer la propagation du virus. Nous restons au Nord Kivu pour parler du gouverneur de cette province qui a réceptionné hier mercredi dans la chefferie de Buito un bâtiment administratif construit sur fond de la MONUSCO en faveur du groupement de Mutanda dans les territoires de Rutshuru. Occasion pour les lieutenants au général Constant Dima d'échanger avec la population locale de Buito sur leurs préoccupations, notamment sécuritaires. Un projet salué par la population qui attend beaucoup le retour de la paix et la sécurité dans cette entité. Reportage d'Essi Famagourou.
Ce projet à impact rapide a été initié par la section des affaires civiles de la MONUSCO Goma pour un coût de 46 000 dollars américains, avec 12 bureaux plus les installations sanitaires internes et externes. Cette infrastructure va permettre de rapprocher les administrés des autorités locales, mais aussi de contribuer au rétablissement de la sécurité, a souligné le délégué du représentant spécial adjoint de la MONUSCO, Saad Haroum. Occasion pour le lieutenant général Constant Dima de rassurer la population de Bouito de la détermination du gouvernement de mettre fin aux groupes armés et leurs exactions.
Sachez que les forces armées de la RDC ainsi que votre police, nous allons tout faire pour que progressivement nous puissions nettoyer ici dans les Rutshuru les enfants de ces coins qui détiennent encore les armes. S'ils acceptent de les déposer, nous allons les accueillir. C'est pour que nous mettions fin au problème des kidnappings, des assassinats ciblés, des paiements, des impositions sur les chemins de fin.
Satisfaction également du président de la société civile locale, Issa Wambui.
J'ai sali cet effort de la MONUSCO avec notre beau bâtiment. Nous espérons que demain ou après-demain, il y aura une paix durable dans notre milieu.
Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
La voix des sans-voix, VSV, se dit réconfortée par des révélations faites hier mercredi 13 octobre par l'un des exécutants des activistes des droits de l'homme Tchebeya et Bazana lors du procès à la prison militaire d'Endolo. Selon Dolly Ibefo, les directeurs adjoints de la VSV, c'est ce qu'ils ont toujours soutenu depuis le début du procès, mais tout n'a pas encore été dit. Elle exige la comparution de tous ceux qui ont été cités par le policier Jacques Mugabo. Dolly Ibefo les dit au micro de Blaise et Shindani Kamba et Jeff Ngoy Mulonda.
Cela vient de rappeler le tout premier aveu de tout ce que nous avons toujours dit, que Floribert et Fidel Bazana ont été exécutés par la hiérarchie de la police, que c'était un crime d'État. Maintenant, on vient de nous donner raison, ils viennent de confirmer, et même la cour est même surprise, parce que je vois certains juges qui étaient là-bas qui sont contrariés, parce que on vient de dire la vérité, on vient de confirmer tout ce que nous disions au départ. Et pour nous, ça nous soulage.
Oui. Et que comptez-vous faire de cet aveu?
Oui, nous voulons que toutes les personnes qui sont citées ici, qu'ils viennent ici, qu'ils puissent confirmer cela et que la haute cour puisse les sanctionner dans le but de lutter contre l'impunité et de mettre fin au régime d'impunité qui existait.
À Kinshasa, les travaux de construction du grand marché appelé communément Zando n'ont toujours pas débuté, plusieurs mois après la destruction des anciens pavillons. Cet espace détruit s'est transformé en une décharge des immondices et sert aussi des latrines publiques. Les vendeurs n'ont plus que les espaces des avenues environnantes pour offrir leurs services aux clients. Ils espèrent une solution venant de la plus haute autorité du pays. Jocelyn Poyi était sur place et suivait son reportage.
Le grand espace qui abritait les pavillons s'est transformé en latrine, dégageant ainsi une odeur nauséabonde insupportable. Vendeurs et acheteurs évoluent dans une promiscuité qui ne respecte pas les mesures barrières édictées par les autorités. Les vendeurs disent être abandonnés dans leur triste sort. Témoignage.
Il n'y a rien d'avancement comme de bonnes œuvres que puisse se passer si on mangeait, il n'y en a pas. C'est l'échec total.
Comment ça se passe? Toutes ces personnes qui occupaient des pavillons là-bas, ils sont partis où?
Alors, nous sommes abandonnés. Nous sommes abandonnés. Quelles solutions nous ont données? Nous sommes toujours en dehors des avenues, des rues pour débrouiller quelque part, avoir peut-être 1000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs. En réalité, il n'y a rien qui marche.
Chico Balongwa, président du syndicat des vendeurs du grand marché, quant à lui, demande le remboursement de biens des commerçants détruits dans les entrepôts lors de la démolition de pavillons par les autorités de la ville.
Bon, à l'autorité du pays, moi je demande d'abord le remboursement des choses de commerçants, ce qui était déjà détruit au niveau du marché central, que ça fasse vite parce que tout le monde dans ce pays qui vit toujours dans un petit commerce. Donc je demande au président qui donne ordre au gouverneur pour récompenser tout le monde ce qu'ils ont perdu.
Signalons par ailleurs que tous les efforts fournis par Radio Capi pour contacter les autorités du grand marché n'ont pas abouti.
C'était Jocelyn Poy sur la fréquence de la paix. En bref, au Sud Kivu, les acteurs du secteur minier réfléchissent sur la validation des sites miniers durables. C'est à travers une table ronde portant sur la gouvernance globale du secteur minier. Elle est organisée par le comité provincial des suivis des activités minières, un consortium d'ONG regroupé au sein du projet Madini Kwa Amani na Maendeleo. Plusieurs experts venus des quatre coins du pays et autorités provinciales et nationales y participent. L'objectif visé est d'améliorer la chaîne d'approvisionnement des 3T. Il s'agit des coltans, cassitérites, wolframites et de l'or, les minéraux les plus exploités dans la région pour lutter contre la commercialisation des minéraux dits des conflits.
Actualité internationale.
Au Nigeria, l'armée annonce la mort d'un des leaders du groupe État islamique Abu Moussad al-Barnawi. Je peux affirmer avec certitude que al-Barnawi est mort, a assuré à des journalistes le chef de l'état-major des défenses, le général Luki Irabor, sans préciser les circonstances du décès du leader du groupe djihadiste nigérian ISWAP, affilié au groupe État islamique. Le président américain Joe Biden, catholique pratiquant, mais aussi partisan du droit à l'avortement, et son épouse Jill Biden seront reçus au Vatican par le pape François le 29 octobre, a fait savoir jeudi la Maison-Blanche. Ils discuteront de la manière de travailler ensemble dans le respect de la dignité humaine pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, faire face à la crise climatique et prendre soin des moins fortunés, selon un communiqué.
L'invité.
C'est le sénateur Hippolyte Mutombo Mbeboa. Avec lui, on parle du cafouillage et des désordres constatés dans les artères sur toute l'étendue du pays avec les transports par mototaxi et une conséquence d'un manque d'encadrement et texte juridique. Pourtant, ces mototaxis répondent énormément aux besoins de déplacement des Congolais. C'est dans cette optique que le sénateur Hippolyte Mutombo Mbeboa, qui déclare, a déposé en fin septembre à la Chambre haute un projet de loi pour une exploitation efficiente de ces moyens des transports. On écoute dans cet entretien avec Billy Ivan Lutumba.
Monsieur le sénateur Hippolyte Mutombo Mbeboa, bonjour. Pourquoi penser à un projet de loi portant création de l'ordre des motocyclistes seulement en ce moment?
La proposition de loi que nous avons soumise au Sénat, elle porte création, organisation et fonctionnement de l'ordre des chauffeurs taxi-moto en sigle OCTM. Cette initiative aujourd'hui, c'est pour des raisons évidentes. C'est compte tenu de l'ampleur qu'a pris le phénomène sur le terrain. Ce nouveau mode de transport a envahi les systèmes et est abondamment utilisé à travers le pays. À la faveur naturellement de la dégradation avancée des routes, de l'extension rapide de nombreuses villes, mais aussi de la croissance démographique. Et l'ampleur qu'a pris ce phénomène ou ce mode de transport a amené une sorte de cafouillage, de désordre sur le terrain, avec notamment la circulation des motos dans tous les sens, accrue par l'inexpérience et l'absence de formation continue des conducteurs. Ça a même amené la maltraitance des conducteurs eux-mêmes, ce qui fait qu'il faut organiser ou réorganiser le secteur. Et c'est ce besoin qui justifie que nous puissions aujourd'hui penser à pouvoir créer cet ordre qui va encadrer les conducteurs taxi-moto.
D'après votre projet, comment entrevoyez-vous le fonctionnement de cet ordre?
L'ordre va fonctionner avec 5 organes. Le premier organe, c'est l'Assemblée générale, qui va comprendre tous les membres qui sont dans la profession ou dans le métier, tous ceux qui se seront fait enregistrer à l'ordre, et le conseil d'administration, qui va être composé de 30 membres. Et les 30 membres seront élus un bureau qui sera composé de 5 membres et les 5 membres vont pouvoir gérer l'ordre au niveau national. Dans les provinces, Mutatis Mutandis, ce sera la même structure. Il y a les assemblées provinciales qui comprennent tous les membres, les conseils provinciaux qui auront aussi des bureaux qui vont s'occuper de la gestion au niveau de province et les collèges des commissaires aux comptes qui aura en charge l'audit pour le respect des règles de bonne gouvernance. Le Conseil comprendra 5 organes, l'Assemblée générale, qui comprend tous les pratiquants, tous ceux qui seront enregistrés comme membres à l'ordre de conducteurs taximoto, qui sera dirigé par un conseil d'administration qui aura un bureau, et ce bureau va coordonner l'action de l'ordre au niveau national, alors dans les provinces, ce sera les assemblées provinciales avec bien entendu, les conseils provinciaux.
Hippolyte Mutombo-Boué, les motocyclistes sont déjà dans des associations bien définies. Ne pensez-vous pas qu'avec l'ordre, il y aura un chevauchement dans le fonctionnement?
À la différence des associations dont les adhésions sont facultatives, l'ordre a l'avantage qu'il passe par le Parlement. Donc c'est une loi. C'est d'une adhésion obligatoire. Vous voulez être dans le métier, vous devez vous inscrire à l'ordre et ça vous permet aussi de pouvoir protéger vos droits. L'ordre a aussi l'avantage qu'il y aura la formation continue et puis l'identification même de ces conducteurs moto et leurs motos. L'ordre, ça va être une sorte d'écran, ça va être une structure, interface avec les services étatiques. Il y aura même une commission juridique qui sera là pour défendre leurs intérêts.
Monsieur le sénateur, avant de terminer, le cafouillage, le désordre, c'est décrié beaucoup plus sur la chaussée. L'ordre, c'est pour un encadrement, bien entendu. Mais qu'est-ce que votre projet de loi apporte comme panacée, comme solution pour tenter de mettre fin à ce désordre qu'on vit sur la chaussée?
L'ordre va participer à diminuer le désordre qui prévaut actuellement sur la route. Cela ressort bien naturellement dans son rôle. En premier, je vais donner les grandes lignes. L'ordre va défendre les intérêts des chauffeurs taxi-moto vis-à-vis de l'État des tiers, contrôler la pratique des chauffeurs taxi-moto dans le transport, encadrer les membres dans l'exercice quotidien du transport en commun, concevoir et exécuter les activités d'information et de formation continue des chauffeurs taxi-moto, initier les poursuites contre les personnes non membres qui exercent la profession de chauffeur taxi-moto, participer à faire respecter les dispositions légales et réglementer la circulation routière, mais également recevoir et traiter de plaintes de la population relative au secteur de transport par taxi-moto, sanctionner les chauffeurs taxi-moto fautifs par un mécanisme interne d'autorégulation, collaborer avec les services étatiques comme conseiller technique, puis arbitrer les conflits entre les membres. Déjà dans son rôle, vous comprenez bien qu'il va participer à organiser, à diminuer les désordres qui prévaut actuellement sur le terrain.
Monsieur le sénateur Hippolyte Mutombo-Boué, merci.
Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce journal. Alain Hurong était à la supervision. Noëlla Luzitu était à la coordination. Et Willem Lungamba était à la mise en ordre. Quant à moi, Pierrot Ilamé, je vous retrouve prochainement. Mais vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiocapi.net.